Force Info.
Toujours en compagnie d'Alexandra Schwarzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération, Patricia Alémonière, grand reporter spécialiste des questions internationales, et François Ehrenwein, éditorialiste politique au journal Réforme. Cette guerre entre Israël et le Hamas, dont on parlait à l'instant, a des conséquences en France. Après Sciences Po Paris, en fin de semaine dernière, un nouveau rassemblement de soutien à Gaza a eu lieu, aujourd'hui à la Sorbonne. Les manifestants ont été évacués par les forces de l'ordre. Que se passe-t-il, Alexandra Schwarzbrod, dans nos universités ?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est pas vraiment dans nos universités, parce que je trouve que finalement, vu la situation à Gaza, à la limite, les universités sont plutôt calmes. Simplement, ça a démarré, c'est vrai, à Sciences Po, par des étudiants qui étaient en solidarité avec ce qui se passait, les horreurs qui se passaient à Gaza. À la limite, on peut les comprendre quand on a 20 ans, 25 ans et qu'on voit la situation à Gaza. Moi, je trouve ça normal et plutôt sain qu'on s'en émeuve. Donc ça, c'est plutôt... Et je trouve que c'est, en revanche, pas très sain de décrédibiliser l'expression pro-palestinien ou de tout comme ce qui s'était
mais
passé, interdire... Alors, il y a plusieurs choses. Le problème, c'est que dans ce genre de manifestation, il y a parfois... il peut y avoir des dérapages et des propos clairement antisémites, ce qui là n'est absolument pas tolérable. C'est pour ça que les pouvoirs publics et les présidents d'université sont extrêmement prudents. Et il y a par-dessus une utilisation de cette émotion des étudiants par LFI, qui en effet a trouvé là une façon d'instrumentaliser la colère des étudiants pour sa propre cause. On se rappelle que et là on sait que chez LFI les dirigeants de LFI sont parfois un peu ambigus sur la gestion. On se rappelle de Jean-Luc Mélenchon qui avait refusé de qualifier de terroriste les attaques du 7 octobre.
Vous avez fait la transition, Manuel Bompard, leader de la France insoumise, a souhaité aujourd'hui que la mobilisation pour Gaza prenne de l'ampleur dans les universités et ailleurs. Et Rima Hassan, candidate aux européennes sur la liste de la France insoumise, a dit assumer totalement son appel au soulèvement. Écoutez.
Oui, je l'assume totalement. Moi, je fais référence à la définition du Larousse, donc je l'ai reprise ici pour cette interview. C'est un mouvement collectif et massif. Je sais précisément à quoi je fais référence quand j'appelle à ce soulèvement. Et effectivement, dans un contexte que nous sommes en train de connaître, qui est quand même un génocide sur lequel de nombreux étudiants se mobilisent, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur le sujet a produit un rapport il y a quelques semaines, Anatomie d'un génocide, où elle explique que c'est un cas avéré de génocide et que très probablement la Cour internationale de justice sera amenée à qualifier ce génocide sur le
soulèvement, génocide, les mots sont très forts. Que font les insoumis ? Est-ce qu'ils jouent à un jeu dangereux ou est-ce qu'ils sont dans leur rôle à accompagner cette colère des étudiants ?
Alors je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a leur position politique effectivement et le jeu qu'ils mènent actuellement et tout le monde l'a analysé par rapport aux élections européennes, c'est-à-dire essayer de prendre des points et dans un type d'électorat. Ça marche à moitié, ils n'arrivent pas à dépasser les 6-7%, donc cette politique à la limite de discours, de virulence dans les propos est pas très productive sur un plan purement politique. En revanche, quand on parle de Rima Hassan, on a affaire à quelqu'un d'autre, on a affaire à une jeune femme qui est complètement d'origine palestinienne, qui était réfugiée en Syrie avec sa famille. On a quelqu'un qui a vécu de par son histoire, la fameuse Nakba, c'est-à-dire les 750 000 Palestiniens qui ont été chassés d'Israël à la création de l'État d'Israël.
Ça, c'est ce qu'elle raconte.
Mais c'est ce qu'elle raconte, mais c'est sa vie. Elle est arrivée à 10 ans en France. Elle était après, elle a eu la nationalité française plus tard. Donc je pense qu'au-delà de cet appel au soulèvement que l'on peut dire à vision politique, à visée politique, en ce qui la concerne, je pense qu'il y a quelqu'un qui est quand même habité quand même par une cause qui est personnelle et qui la touche dans son intimité, puisqu'elle s'est toujours occupée des réfugiés qui sont palestiniens depuis qu'elle travaille. Elle était dans des associations, elle donnait des conférences, etc. Donc on a deux choses. On a effectivement cette femme qui est devenue maintenant le martyr de la cause des jeunes jeune en France, en quelque sorte, puisqu'elle est aussi, comme Mathilde Panot, convoquée par la police, en quelque sorte.
Hein. Eh bien, on va...
Voilà. Et donc, il y a le côté politique, et puis il y a le côté personnel, dont on ne peut pas ignorer son histoire.
On va y revenir, mais François Ehrenwein, vous pensez que c'est la bonne stratégie, ça, pour les Européennes, de la part des Insoumis? On en
ça
parlait
pas,
dans
hein.
les sondages 6-7%.
Non, mais ça vient d'être évoqué à l'instant. Assurément, l'ambition de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas les Européennes. Il prépare déjà la présidentielle et il veut se constituer un électorat de jeunes, notamment dans les banlieues, consolidé autour de sa ligne politique avec tous les abus qui ont caractérisé son appréciation du conflit entre les attentats d'abord du 7 octobre, enfin l'attaque terroriste du 7 octobre, et ensuite tous les discours qu'il tient depuis un moment.
Et elle passe par Sciences Po, cette stratégie, alors.
Pardon ?
Elle passe par Sciences Po, cette stratégie, maintenant, Jean-Luc Mélenchon.
Tous les jeunes sont bons à prendre, je dirais, dans une logique parfaitement cynique et mélenchoniste, on peut arriver à ce résultat-là.
Il a récupéré.
Mais, je voudrais balancer mon discours par cette remarque. Reprocher à des élus d'LFI d'avoir fait l'apologie du terrorisme, c'est y aller vraiment fort. Et je pense que la condition du débat démocratique, et je dirais la chose suivante, ça va peut-être heurter un certain nombre de gens, si on accepte toutes les poussées d'antisémitisme, et ça, il faut être absolument intransigeant sur cet aspect des choses. Je pense que dans le débat public, aujourd'hui en France, on doit pouvoir critiquer la politique israélienne à Gaza ou en Cisjordanie. Parce que dans le champ des horreurs, c'est quand même pas mal ce qui se passe là-bas.
Vous faites référence à la convocation demain de Rima Hassan et Mathilde Panot, deux insoumises pour être entendues pour apologie du terrorisme. On va y revenir, mais d'abord, à l'opposé totalement de la stratégie des insoumis, le gouvernement joue la fermeté. Et en même temps, on sent l'exécutif un peu gêné. Il ne veut pas franchir certaines limites. Écoutez Gabriel Attal, le Premier ministre.
Il n'y aura jamais de droit au blocage et jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante, dangereuse, qui cherche à imposer ses règles, une idéologie d'outre-Atlantique à nos étudiants et à nos enseignants.
Voilà, fermeté de Gabriel Attal, Alexandra Schwarzbrod. Oui, et en même temps, l'exécutif refuse de suivre la région Île-de-France qui annonçait ce soir qu'elle suspendait ses financements à Sciences Po. Est-ce qu'il était convaincant, le Premier ministre ? À vous voir, j'ai l'impression que non.
Tout ça est lunaire, quand même. Tout ça est lunaire. Là, on parle de quelques dizaines d'étudiants, minorités dangereuses à l'idéologie venant de
Vous trouvez que l'exécutif en fait trop ? Parce que pour certains, il n'en fait pas assez.
Incontestablement.
Moi, ça me paraît
lunaire. Tonnes,
encore une fois, il faut toujours remettre ça dans son contexte d'élections de campagne électorale, et avec une droite qui pousse pour, on voit bien, plus d'autorité. Mais là, de quoi on parle ? On parle de quelques dizaines d'étudiants. Les campus ne sont pas à feu et à sang en France.
Couper les finances.
Et pourtant, la France est quand même le pays qui accueille la plus grosse communauté juive et la plus grosse communauté musulmane d'Europe. Moi, je trouve que c'est assez calme, vu ce à quoi on assiste depuis le 7 octobre, 7 octobre compris, qui était quand même une monstruosité, et ensuite tout ce qui s'est passé, ces massacres sur Gaza. Je trouve que c'est pas si inquiétant.
Mais peut-être que
l'exécutif
craint la contagion aussi, non ? On a vu que ça s'était étendu à la Sorbonne, quand on voit la situation aux États-Unis.
Je crois que l'exécutif, en fait, et c'est comme LFI, il joue une carte politique en ce moment. Donc, pour rassurer, il veut frapper fort. Il veut montrer qu'il est dépositaire d'une autorité souvent contestée, puisqu'effectivement, une grande partie de l'opinion publique lui reproche de ne pas être assez fort. Donc, l'autorité, Gabriel Attal, joue ce rôle-là de vouloir ramener l'autorité comme le ministre de la Justice.
20h-21h, les informés, Agathe Lambray.
Toujours en compagnie d'Alexandra Schwarzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération, Patricia Lémonière, grand reporter, spécialiste des relations internationales, et François Ehrenwein, éditorialiste politique au journal Réforme. J'en parlais à l'instant, je voudrais qu'on écoute l'essayiste Alain Minc. Lui, il appelle à remettre les choses d'équerre et il a ses idées. Écoutez.
Je pense que l'État doit maintenir ses financements et remettre de l'ordre dans cette boutique. Et que pour remettre de l'ordre dans cette boutique, il va falloir sortir d'un mécanisme de désignation d'un directeur avec 28 comités, 4 conseils qui vont aboutir nécessairement à une solution mollassonne. Il y a des moments où l'État, qui finance peut, pendant une période de temps limitée, désigner quelqu'un à l'autorité incontestée et qui mettra fin à ses errements.
Mais il faut mettre sous tutelle Sciences Po, Alain Minc ?
Mais bien sûr, pour une période limitée.
Voilà, alors Alain Minc, qui appelle à mise sous tutelle de Sciences Po, comme Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, ce ne sont pas de dangereux extrémistes. Mais pour vous, on nage en plein délire, là, François?
Moi, je pense, y compris la proposition de Valérie Pécresse de couper les crédits à Sciences Po, au motif que des gens ont manifesté en soutien à la cause palestinienne, ou même ont occupé une partie des locaux de Sciences Po, ça me paraît absolument délirant. Si on ne supporte plus que des universités montent des cris de colère, dans quel pays vit-on? Et pourquoi? Alors la désorganisation de Sciences Po, le système d'élection, c'est un débat distinct de ce qui se passe en ce moment à Sciences Po.
Ils ne font pas que manifester, ils bloquent aussi les cours. Et il y a des étudiants qui aimeraient pouvoir aller manifester. Mais Patricia Alemonière, je parlais tout à l'heure du risque de contagion que redoute l'exécutif. Vous connaissez bien les États-Unis. Est-ce qu'on assiste à une américanisation de nos universités où vous vous dites ça n'a rien à voir?
Je veux dire qu'il y a toujours une influence avec un temps de moins deux qui arrive chez nous. Souvenez-vous, 66, le soulèvement dans les universités américaines pour la défense, eh bien, ou la légalité des Noirs, et aussi contre la guerre au Vietnam. Tout ça, après, ça mûrit, il y a eu un bouillonnement dans les universités, un remue-ménage intellectuel, et c'est arrivé chez nous en 68. Bon, donc peut-être qu'aujourd'hui, LFI, je crois, a joué de l'opportunité vis-à-vis de Sciences Po. Ce n'est pas LFI qui a monté Sciences Po. Ils ont vu là une bonne cause.
Mais donc ça veut dire que l'exécutif a peut-être des raisons de s'inquiéter. Ce mouvement pourrait se propager.
Alors, pour,
quand on voit que quasiment tous les campus aux États-Unis sont
touchés. Soulèvement, enfin, vous avez bien vu, LFI appelle au soulèvement que tous les Français doivent rejoindre les universités. Nous n'en sommes pas là. Je partage complètement l'avis d'Alexandre. Pour l'instant, c'est quand même un mouvement qui est minoritaire. Il faut voir ce que... Parce que là, les étudiants rentrent de vacances, donc on va quand même voir ce qui va se passer.
Et ils entrent en période d'examen.
C'est aussi la période d'examen. Et quand même, une certaine partie des étudiants a quand même très envie de passer ces examens et de ne pas perdre une année. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Mais il faut aussi laisser... Les étudiants, c'est le lieu où on a le droit de réfléchir et en théorie, le lieu où on a le droit de dire ce que l'on pense, que l'on soit pro-israélien, pro-Netanyahou ou pro, si vous voulez, palestinien. Je ne dis pas pro-Hamas.
Dans ce contexte, Hernan Wein l'évoquait tout à l'heure et je vais vous donner la parole à Alexandra Schwarzbrod. Rima Hassan, numéro 7 sur la liste LFI aux européennes, Mathilde Panot sont convoquées par la justice demain pour apologie du terrorisme. Est-ce que c'était la justice de trancher ce genre de débat?
Mais non, absolument pas. Là, il n'y a pas d'apologie du terrorisme. Et ça fait plus de mal qu'autre chose parce que justement, ça permet à Mathilde Panot et à Rima Hassan de se victimiser et de faire monter encore plus la colère et la hargne et la rancœur. On n'a pas besoin de ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, demain, s'il y a une trêve, je dis bien si, parce que vraiment rien, il suffit du moindre petit grain de sable pour que ça ne se fasse pas. Mais s'il y en avait une, tout ce qu'on est en train de dire, ça va se calmer. En revanche, s'il n'y a pas de trêve et si Benjamin Netanyahou, chauffé à blanc par ses ministres d'extrême droite, décide d'entrer dans Rafah et que ça fasse des dommages humains considérables, alors là, ça va être un embrasement, pas seulement en France, mais partout, dans le monde entier. Donc, voilà,
Donc, le gouvernement dépend aussi.
Là, si ça se trouve, demain, tout peut changer.
Tout le monde retient son souffle.
Voilà.
Oui, et j'ajouterais que le comparatisme entre les États-Unis et la France n'a pas grand sens. Ce qui fait ressembler ces deux expériences, c'est le besoin ou l'aspiration à la révolte devant certaines situations chez les jeunes. Et ce besoin, je rappelle, ou ce sentiment est constitutif de la jeunesse et on ne va pas commencer à reprocher aux jeunes d'être jeunes.
Mais il y a la France.
D'ailleurs, on le trouve dans d'autres pays européens. Hein.
Exactement.
Il y a d'autres facs en Europe aussi qui bouillonnent actuellement. Donc, il n'y a que la France.
Mais la France insoumise, ce n'est pas la jeunesse, c'est un mouvement politique qui accompagne ce mouvement.
On l'a dit.
Vous êtes choqué par les convocations demain de deux membres de la France insoumise. Il y a aussi des conférences de Jean-Luc Mélenchon qui ont été annulées. Est-ce que François Hernan Wein, la France insoumise a raison de dénoncer la censure?
Enfin, j'ai beaucoup de mal à soutenir la France insoumise à cause de toutes les ambiguïtés qu'on a relevées sur la question du 7 octobre. Mais sur le plan des libertés publiques, je préfère m'intéresser aux libertés publiques qu'à la France insoumise.
Et sur la qualité du débat politique aussi, qui est quand même sérieusement en train de s'abîmer. Le débat politique
en France,
ça recoupe tout ce qu'on a dit.
Pour élargir mon propos, je dirais qu'il faut être attentif au respect des libertés publiques en France. Au nom de la sécurité, depuis un certain nombre de temps, les législations d'exception s'installent, les pratiques d'exception s'installent, le rôle des préfets est sans cesse augmenté au détriment de la justice administrative. Et moi, je pense que le recul des libertés publiques est un vrai sujet en France.
Et c'est la démocratie qui est en jeu, en fait.
Exactement.
François Hennenwein, la une du journal Réforme de cette semaine.
Eh bien, on a travaillé sur la montée des populismes en Europe et le fait que cette montée des populismes, pas seulement en France mais ailleurs, menace l'essence de ce qu'a été l'Europe.
Alexandra Schwarzbrod, la une de Libé.
Alors nous, on a fait le tour de l'Europe en train et on raconte comment le train permet à la fois de briser les frontières, d'être plus écologique. Bref, c'est le moyen de transport de demain. C'est une super balade qu'on vous raconte demain à la une de Libé.
Merci à tous les trois. Merci aussi à Patricia Alémonière, grand reporter et spécialiste des questions internationales. Alexandra Schwarzbrod, je précise juste que vous publiez un livre et il est différent de vos précédents livres. C'est un récit personnel. Il s'appelle Éclat, c'est ça ?
Autobiographique, oui. Je raconte notamment mes années de correspondante à Jérusalem et aussi toutes les crises vécues par Libération. Il y en a eu pas mal. Et voilà, c'est Éclat au Mercure de France.
Et merci. Demain, les informés reviennent à 9h avec Salia Braclia et Renaud Dely. Nous, on sera là à 20h.